Chapitre 6. L'instrument intellectuel, l'idée vraie. Nous savons quel mode de connaissance nous est nécessaire. Il faut tracer maintenant la voie et la méthode au moyen de laquelle nous connaîtrons par ce mode de connaissance les choses que nous avons besoin de connaître. Et d'abord, il faut remarquer que nous n'irons pas nous perdre de recherche en recherche dans un progrès à l'infini. Je veux dire que pour trouver la meilleure méthode propre à la recherche de la vérité, nous n'aurons pas besoin d'une autre méthode à l'aide de laquelle nous recherchions la méthode propre à la recherche de la vérité. Et que, pour découvrir cette seconde méthode, nous n'aurons pas besoin d'en avoir une troisième, et ainsi à l'infini. Il en est de la méthode comme des instruments matériels, à propos desquels on pourrait faire le même raisonnement. Pour forger le fer, il faut un marteau. Mais pour avoir un marteau, il faut que ce marteau ait été forgé, ce qui suppose un autre marteau et d'autres instruments, lesquels à leur tour supposent d'autres instruments et ainsi à l'infini. C'est bien en vain qu'on s'efforcerait de prouver, par un semblable argument, qu'il n'est pas au pouvoir des hommes de forger le fer. Au commencement, les hommes, avec les instruments que leur fournissait la nature, on fait quelques ouvrages très faciles à grand-peine et d'une manière très imparfaite, puis d'autres ouvrages plus difficiles, avec moins de peine et plus de perfection, et en allant graduellement de l'accomplissement des œuvres les plus simples à l'invention de nouveaux instruments, et de l'invention des instruments à l'accomplissement d'œuvres nouvelles, ils en sont venus, par suite de ce progrès, à produire avec peu de labeur les choses les plus difficiles. De même, l'entendement par la vertu qui est en lui se façonne des instruments intellectuels au moyen desquels il acquiert de nouvelles forces pour de nouvelles œuvres intellectuelles, produisant, à l'aide de ces œuvres, de nouveaux instruments, c'est-à-dire se fortifiant pour de nouvelles recherches, et c'est ainsi qu'il s'avance de progrès en progrès jusqu'à ce qu'il ait atteint le comble de la sagesse. Qu'il en soit ainsi de l'entendement, c'est ce qu'il est facile de voir pourvu que l'on comprenne et ce qu'est la méthode propre à la recherche de la vérité et ce que sont ces instruments naturels qui suffisent à l'invention d'instruments nouveaux et aux recherches ultérieures. C'est ce que je montre de la manière suivante. L'idée vraie, car nous sommes en possession d'idées vraies, est quelque chose de différent de son objet. Autre chose est le cercle, autre chose l'idée du cercle. L'idée du cercle n'est pas quelque chose qui est une circonférence, un centre, comme le cercle. Et l'idée du corps n'est pas le corps lui-même. Étant différente de son objet, l'idée sera par elle-même quelque chose d'intelligible. Je veux dire que l'idée, considérée dans son essence formelle, peut être l'objet d'une autre essence objective. Et à son tour, cette autre essence objective, vue en elle-même, sera quelque chose de réel et d'intelligible, et ainsi indéfiniment. Pierre, par exemple, est quelque chose de réel. L'idée vraie de Pierre est l'essence objective de Pierre. Elle a en elle-même quelque chose de réel, et elle est toute différente de Pierre lui-même. Mais puisque l'idée de Pierre est quelque chose de réel, ayant en soi son essence propre, elle sera quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire qu'elle sera l'objet d'une autre idée, laquelle possédera objectivement en elle-même tout ce que l'idée de Pierre possède formellement. Et à son tour, cette nouvelle idée, qui est l'idée de Pierre, a son essence propre, et pourra devenir l'objet d'une autre idée, et ainsi indéfiniment. C'est ce dont chacun peut faire l'expérience. Ne sait-on pas ce qu'est Pierre ? De plus, ne sait-on pas qu'on le sait ? De plus, ne sait-on pas qu'on sait qu'on le sait, etc. D'où l'on voit que pour comprendre l'essence de Pierre, il n'est pas nécessaire de comprendre l'idée même de Pierre, et bien moins encore l'idée de Pierre. Et c'est comme si l'on disait qu'il n'est pas nécessaire, pour savoir, que l'on sache que l'on sait, et bien moins encore que l'on sache que l'on sait, non plus qu'il n'est nécessaire pour comprendre l'essence du triangle de comprendre l'essence du cercle. C'est justement le contraire qui a lieu dans ces idées. En effet, pour savoir que je sais, il est nécessaire d'abord que je sache. D'où il suit évidemment que la certitude n'est autre chose que l'essence objective de l'objet, je veux dire que la manière dont nous sentons l'essence formelle de l'objet est la certitude elle-même. D'où il suit encore évidemment qu'il suffit pour reconnaître la certitude de la vérité d'avoir l'idée vraie de l'objet et qu'il n'ait besoin d'aucun autre signe. Car, ainsi que nous l'avons montré, il n'est pas nécessaire pour savoir que je sache que je sais. D'où il suit encore évidemment que celui-là seul sait ce qu'est la suprême certitude qui possède l'idée adéquate ou l'essence objective de quelque chose, la certitude et l'essence objective ne faisant qu'un.